Que le Seigneur soit béni. On va continuer bien sûr à prier, à intercéder. Mais comme je vous l'ai annoncé dimanche, je vais vous parler un petit peu encore de l'Église persécutée ce soir. Et puis on va ouvrir d'abord l'Apocalypse, évidemment, au chapitre 2, puisque je vous l'ai annoncé, je vous ai dit qu'on parlerait de l'église de Smyrne, qui est le type de l'église persécutée aujourd'hui. Et à la fin de ce message, je vous donnerai aussi, pour faire suite, pour aller un petit peu plus loin, pour approfondir ce qui a été partagé dimanche, on regardera aussi un petit peu ensemble comment est-ce qu'on peut prier de façon incisive, pertinente, prier de façon précise pour ceux et celles qui sont persécutés. Parce que déjà, je suis vraiment béni dans mon cœur de voir que ce qui s'est passé dimanche, ça a trouvé de l'écho dans le cœur de plusieurs. Vous êtes déjà dans cette dynamique de ne pas oublier ceux qui souffrent pour leur foi. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des moments, peut-être, on s'est dit, Seigneur, au fait, je vais te demander quoi pour eux. Bon, bénis-les, bien sûr, oui. Évidemment, donne-leur de la force, bien sûr. Mais on a aussi des pistes de prière. La parole nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et on regardera à la fin du message, grâce au PowerPoint, on regardera quelques pistes de prière. Et on verra comment la parole peut nous inspirer la prière pour nos frères et sœurs persécutés. Pour l'instant, on est dans l'Apocalypse au chapitre 2. Au verset 8, j'ai pas de PowerPoint pour le message, ça c'est pour après, mais je l'ai enclenché pour vérifier que ça marche. Apocalypse, vous êtes avec moi, chapitre 2, les versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ici, ce n'est pas un ange au sens littéral. Hein. On n'a jamais vu un ange être responsable à la tête d'une église ou quoi ou qu'est-ce. Il faut comprendre de façon... Peut-être qu'un jour, on fera une étude de l'Apocalypse complète ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Mais comprenez que là, il s'agit très certainement de... On écrit au responsable de l'église. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Il y aurait bien sûr énormément à dire sur ce texte. Je vais simplement dégager quelques pensées maîtresses dans la lignée de ce que nous avons déjà partagé dimanche. Il y a, dans ce début du livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises. L'apôtre Jean reçoit la révélation du Seigneur dans sa gloire. Apocalypse ne signifie pas catastrophe, c'est la fin, comme le monde le comprend. Ça signifie révélation. Et il va recevoir une révélation extrêmement puissante, extrêmement forte du Seigneur dans sa gloire. Et c'est un des motifs principaux, une des raisons d'être du livre de l'Apocalypse, c'est de fortifier les croyants de la fin des temps face à tout ce qui va se passer, au déferlement, au déchaînement de tout ce qui va se passer dans les temps de la fin, et notamment aussi pendant la 70e semaine de Daniel, la grande tribulation, les 7 années, la 70e semaine de Daniel. Et puis il y a 7 églises à qui Jean va s'adresser. Et ces 7 églises, on le sait, sont en réalité 7 types d'églises qui ont toujours été présentes à la surface de la terre depuis la Pentecôte. La persécution, je vous l'ai dit, n'est pas nouvelle, mais qui n'ont jamais, ces sept types d'églises, n'ont jamais été autant d'actualité que maintenant et n'ont jamais autant été présentes à la surface de la terre que maintenant. Et quand on considère ces sept églises, il n'y a que deux églises sur les sept à qui le Seigneur n'a pas de reproche ou d'appel à la repentance à formuler. Il y a Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée. Sont des églises, le Seigneur dit je connais tes œuvres, je sais, il y a ça, ça c'est bien, le Seigneur fait un scanner, il fait un bilan, il dit ça, ça. Mais par contre, ça c'est dangereux. Éphèse, toi tu ne m'aimes pas comme au premier jour, ça il faut que tu te repentes et que tu m'aimes à nouveau comme tu m'aimais au commencement, parce que sinon, et Pergame, et Thyatire, et Sardes, et Laodicée c'est la pire de toutes, c'est celle qui a même fini par mettre Jésus à la porte carrément. Et sur l'ensemble de ces églises, il n'y a que deux églises, Smyrne et Philadelphie, auxquelles le Seigneur ne fait aucun reproche. Il n'a rien à dire de négatif, il n'y a pas d'appel à la repentance. Et Philadelphie, c'est celle bien sûr qui a gardé la parole, Smyrne l'a gardée aussi, elle a gardé le nom de son Dieu jusqu'à la mort. Philadelphie a gardé la parole, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient bientôt sur le monde, etc. Et Smyrne, eh bien, c'est comme Philadelphie, c'est une église à laquelle le Seigneur ne fait pas de, j'aime pas le mot reproche, mais on se comprend, il n'y a pas d'appel à la repentance, il n'y a rien à réformer, il n'y a rien à revoir chez elle. Il lui adresse simplement un message d'encouragement, une nouvelle qui n'est humainement parlant pas bonne, assortie d'un message d'encouragement, une exhortation à tenir bon, à rester fidèle, parce que Smyrne, c'est le type justement de l'église persécutée. C'est le type de l'église, le type, c'est-à-dire qu'elle typifie, elle symbolise, elle représente les églises persécutées depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps. Smyrne, c'est l'église qui est réellement marquée par la souffrance, par l'injustice et par la persécution. Quand le Seigneur lui dit « Je connais ta tribulation », en réalité, le mot tribulation, c'est thlipsis dans l'original grec, et ce mot littéralement signifie persécution, oppression, souffrance. Le Seigneur vient vers cette église de Smyrne et il lui dit « Je connais ta persécution ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens de Smyrne, les chrétiens de Smyrne, subissent ce vent de persécution parce qu'ils sont restés intègres dans un monde où tout les poussait à la corruption, à la magouille, etc. et à la confusion religieuse. Il faut savoir que, juste pour le contexte, la ville de Smyrne était marquée justement, c'était une ville dont les affaires étaient extrêmement florissantes. Et puis, dans cette ville où toutes les affaires étaient florissantes, il fallait absolument, pour pouvoir faire des affaires avec ces juifs, ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui se disaient de confession juive, et pour faire des affaires avec ces gens-là, alors que les affaires étaient florissantes, pour entrer dans ce cercle, il fallait absolument vouer un culte aux dieux païens. On mélangeait la religion avec les affaires. Si tu n'adores pas, si tu ne montes pas au temple de Tibère, parce qu'il y avait un temple et plusieurs, mais notamment le temple de Tibère, à qui on vouait un culte dans cette ville de Smyrne, et on disait à ces gens-là, si vous refusez, si vous continuez avec votre Jésus, si vous n'adorez pas Tibère et les autres dieux comme nous, nous les adorons, on vous ferme toutes les portes, il n'y aura pas de commerce, vous n'aurez plus rien. Et ces gens se retrouvant réellement par intégrité, disant « Non, nous ne ferons pas de compromis », c'est pour ça que le Seigneur dit « Je connais ta pauvreté », ce sont des gens, à cause de leur amour pour leur Seigneur et de leur intégrité pour ne pas faire de magouille, de corruption dans leurs affaires, parce qu'ils ont refusé la corruption, l'immoralité, le mensonge, l'idolâtrie, parce qu'ils ont refusé toute forme de compromis, c'est à cause de leur intégrité qu'ils sont pauvres matériellement, bien que riches spirituellement, qu'ils sont pauvres matériellement et qu'ils sont persécutés, puisqu'il y a ceux qui sont juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas et qui, dans cette confusion religieuse, profitent et évidemment vont persécuter les chrétiens de Smyrne. D'où cette synagogue de Satan, en réalité synagogue en grec, c'est un lieu de réunion. La synagogue, c'est le lieu où on se réunissait. C'est un lieu de réunion, c'est une assemblée. Et il y avait des réunions, il y avait des assemblées de gens idolâtres, des assemblées, des réunions dans la puissance des ténèbres contre les chrétiens de Smyrne. Donc ils évoluent dans un contexte spirituel extrêmement compliqué, tendu, avec une énorme pression. Ce n'est pas comme chez nous, où on sait qu'il y a d'autres religions, mais pour l'instant, chacun chez soi, et puis du coup, voilà. Non, non, là, c'est qu'il y a vraiment un impact sur l'Église de Jésus, au sens où si vous continuez avec votre Jésus et que vous ne pratiquez pas notre culte païen, on va vous fermer les portes et vous allez vous retrouver dans la misère. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est à cause de leur intégrité pour le nom de Jésus, parce que c'est par amour qu'ils le font, qu'ils ne veulent pas de compromis. C'est pour ça qu'ils sont persécutés, qu'il y a d'énormes répercussions matérielles pour eux. Et ça, aujourd'hui, bien aimé, ben, ça existe encore, évidemment. Ils sont dans un contexte spirituel extrêmement oppressant. Et en plus, ils sont dans un contexte matériel qui est très compliqué, puisque le Seigneur leur dit « Je connais ta pauvreté ». Ce sont des gens donc qui ont peu de moyens matériels, mais... Et ça, on l'observe encore aujourd'hui, comme quoi la parole de Dieu est terriblement d'actualité. Tout est là. Des gens qui vivent une richesse spirituelle dans leur pauvreté matérielle. Vous avez vu dimanche, vous avez vu certains pays sont démunis de tout, 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 absolument tout. Même le strict nécessaire, parfois, devient très compliqué. La question de boire, de manger, dans certains pays, devient extrêmement compliquée. Et il y a cette pauvreté matérielle, mais à côté de ça, une effusion du Saint-Esprit, des richesses spirituelles d'en haut, des bénédictions éternelles, incorruptibles, ce sont des gens... Il y a une espèce de paradoxe qui est là. Ils sont extrêmement pauvres humainement parlant, mais ils sont d'une richesse spirituelle. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas masochiste, mais entre eux et la France, je ne sais pas lequel des deux est le plus à plaindre. Smyrne, c'est l'église de la victoire contre la persécution et contre l'injustice. Et cette église, du coup, devient pour nous aujourd'hui une église modèle. C'est une église comme Philadelphie, c'est une église modèle, parce que c'est une église qui est fidèle, c'est une église qui tient bon, c'est une église qui refuse de se corrompre, c'est une église qui est courageuse et qui endure des souffrances. On aurait pu dire, Seigneur, vu qu'on a tenu bon pour toi, vu que nous sommes restés intègres pour toi, ne pourrais-tu pas ? Et là, le Seigneur leur dit, verset 10, après leur avoir dit, je sais, je connais ta persécution, je sais que tu es pauvre matériellement, ça l'idée, bien que tu sois riche de moi, et que c'est ta plus belle richesse. Et alors que cette église est déjà en train d'évoluer dans le pire, qu'elle fait face fidèlement, courageusement, c'est là que le Seigneur lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah bon, parce que c'est pas fini, Seigneur ? Et le Seigneur lui dit, non, c'est pas fini. Je change les temps et les circonstances. Je renverse et j'établis les rois. Je suis dans le ciel, je fais ce que je veux. Et je glorifie mon nom comme je veux, avec les héros que j'ai forgés par mon esprit, des héros de la foi, qui vont vivre des choses.
au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Je vais te faire vivre des dimensions avec moi. Mais tu n'arriveras jamais à ces dimensions si je ne t'appauvris pas autrement. Et tu vas devenir une église modèle pour toutes les générations jusqu'à mon retour. C'est comme si le Seigneur lui disait, je sais, mais non, ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres épreuves, il y a d'autres souffrances, d'autres injustices, d'autres persécutions qui t'attendent. Bien sûr, des persécutions, des injustices, des épreuves, comme on l'a toujours dit, qui seront toujours mesurées dans leur intensité, mesurées dans la longueur, jamais au-delà de leur force. Le Seigneur met une limite, il dit, vous subirez, vous serez éprouvés, vous aurez une tribulation, littéralement clipsis, persécution, de 10 jours. C'est une façon pour au Seigneur de leur dire, de leur rappeler, je suis souverain. Ça n'ira pas au-delà de vos forces, ça n'ira jamais au-delà de ce que moi j'ai permis. Mais vous allez encore avoir une autre persécution qui arrive, une autre vague derrière la première vague. C'est comme si le Seigneur leur disait, non, c'est pas fini, il y a d'autres épreuves. Et là, de nouveau, il leur parle bien de persécution. Après 10 jours, là, j'ai pas la réponse, bien-aimé. Est-ce que c'est 10 jours au sens littéral, ou est-ce que c'est 10 jours dans une certaine mesure de temps? Des fois, la Bible a des mesures temporelles qui ne sont pas exactement les nôtres. Quand il est question des 70 semaines de Daniel, il y a 69 semaines qui s'écoulent de là jusqu'à celui qui est retranché loin, le Messie, 69 semaines. La 70e semaine que Daniel ne pouvait pas voir parce que le mystère de l'Église lui était caché, la 70e semaine n'est pas encore accomplie, mais elle arrive très vite. Mais on sait que ce sont des semaines de 7 ans, ce qui a fait 460, ce qui a fait 69 fois 7, et ensuite 7 fois 7. Et on sait qu'il y aura la grande tribulation de 7 ans. Donc parfois, les repères temporels, est-ce que c'est 10 jours au sens littéral ou est-ce que c'est un autre repère temporel? On ne sait pas. Mais le Seigneur montre ici qu'il va permettre et qu'il a encore une fois pesé et qu'il a mesuré. Donc, combien de temps, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est cette révélation du Dieu qui contrôle et qui maîtrise toutes choses dans les moindres détails. Dieu se révèle une fois de plus comme celui qui a mesuré la longueur, l'intensité de l'épreuve et qui en a fixé les limites. Et Dieu, une fois de plus, c'est ce que je vous disais dimanche pour rassurer nos cœurs. Des fois, des bien-aimés m'ont dit, je me suis posé la question, j'ai dit, plus d'une fois en priant, je me suis dit, Seigneur, mais si c'était moi qui étais au Niger, j'ai dit, Seigneur, mais je ferais quoi? Ce n'est pas les bonnes questions. Il y a une mesure d'une effusion d'esprit, il y a une mesure d'esprit qui est à la hauteur de ce qu'ils doivent traverser. Marc 13, le Seigneur dit à ses disciples, quand on vous prendra, qu'on vous arrêtera et qu'on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce que le Saint-Esprit vous donnera à l'heure même, et ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit Saint au travers de vous. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier. Le Seigneur sait déjà très bien à qui il demande ça, jamais au-delà de nos forces, mais en plus il pourvoit et il donne la force, réellement on peut le dire ainsi, frères et sœurs, de supporter l'insupportable. Et c'est ça qui est fou dans la pédagogie de Dieu, dans sa façon d'agir, c'est que Dieu forge, littéralement il façonne ses héros, et il est réellement en train de façonner des champions. Ses frères et sœurs dans les pays persécutés, quelle que soit, vous l'avez vu dimanche, quelle que soit la forme de persécution qu'ils subissent, ce sont les champions de Dieu et pour Dieu. Et Dieu a toujours été clair, je ne prendrai pas les choses fortes ou sages de ce monde pour me glorifier, mais je prendrai des choses viles, faibles et folles, et c'est comme ça que je glorifierai mon nom. Et le Seigneur glorifie son nom. Et on a vu comment le Seigneur, on va le voir encore ce soir, que d'une façon ou d'une autre, il arrive à glorifier son nom, des bien-aimés, des frères et sœurs qui sont des champions de Dieu, pour Dieu, qui sont des champions pour lui. Et ce que le Seigneur va faire à ce moment-là, comme il le fait toujours, il va apporter une mesure plus grande, une mesure plus puissante, non pas d'information, non pas de doctrine, dans l'épreuve. C'est le même principe pour eux que pour nous, mais eux, c'est à une échelle supérieure encore. Mais c'est toute une histoire, non pas de doctrine ou de compréhension intellectuelle, mais de révélation. Et il va se révéler tout à nouveau à eux, avec une facette particulière qui correspond à leurs besoins. Il se révèle comme celui qui a triomphé de la mort, de l'enfer, du péché, du séjour des morts. Jésus, le martyr suprême, le persécuté par excellence, l'incompris, le rejeté, celui qui porte dans sa chair, dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté, qui porte les stigmates éternels de son œuvre et de la persécution dont il a été victime, même si c'était l'accomplissement d'un plan. On sait que Jésus est le persécuté par excellence. Comme je vous ai dit dimanche, il n'est pas le premier persécuté, mais il est le persécuté par excellence. Et évidemment, il est la cause, il l'a dit lui-même, il l'a dit, il est la cause de toutes les persécutions. Jésus, le martyr suprême, se présente à eux comme le glorieux ressuscité. Il veut que leurs yeux spirituels se fixent sur sa victoire. Voici ce que dit le premier, c'est ce qu'on a aussi dans d'autres passages de l'Apocalypse. Voici ce que dit le premier, là c'est dans au verset 8, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Un message, une révélation forte, un message centré sur des réalités spirituelles extrêmement puissantes qui doivent fortifier, affermir la foi et donner le courage nécessaire à chaque enfant de Dieu dans chaque forme de persévérance, d'épreuve et la persévérance nécessaire. C'est la plus grande de toutes, c'est la révélation de Jésus dans sa gloire. C'est pour ça qu'à d'autres moments dans l'Apocalypse, il est question de celui qui tient, notamment au chapitre 1er, « Je suis celui qui tient, j'étais mort et je suis vivant maintenant. Je tiens, je suis le premier-né d'entre les morts. Je tiens dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. » Et les chrétiens des temps de la fin, les chrétiens de Smyrne reçoivent la grandeur, la magnificence de ces révélations, la personne incomparable et glorieuse de Jésus. Comment est-ce que des bien-aimés, face à ce qu'on a entendu dimanche, et encore, je peux vous dire, je connais Christian, c'est la troisième fois que je travaille avec lui, Yves le connaît très bien aussi. Je peux vous dire que dimanche, il a été vraiment soft. Mais il y a des moments où vous vous dites, comment des frères et sœurs, ils peuvent tenir comme ils tiennent dans des... On a des témoignages, on entend des choses, mais hallucinant. Ils tiennent, frères et sœurs, parce qu'ils ont une révélation de la personne, de l'œuvre et de la gloire de Jésus, qui transcende, qui est infiniment supérieure à ce qu'ils doivent traverser en réalité. Et non seulement tout le livre de l'Apocalypse parle de cette révélation de ce Jésus qui a triomphé de la mort, qui règne, qui est assis sur un trône, qui est inébranlable, un règne qui n'aura pas de fin, mais en plus, un Jésus qui est le souverain absolu, un des messages forts, un des cris de Dieu, de Jésus à l'Apocalypse, c'est « Je suis au contrôle ». Et plus on va arriver à notre niveau, à nous aussi, bien-aimés, plus on va arriver, plus on va avancer dans les temps de la fin, plus les choses vont secouer à droite, à gauche, plus on va avoir besoin non pas de bonnes prédications, non pas de bonnes lectures bibliques, non pas d'une bonne théologie ou d'une bonne doctrine, mais ça c'est dans la tête, mais il va nous falloir réellement des révélations dans l'être intérieur de la souveraineté absolue de Jésus. Et quand ça se coûte partout et que des choses s'effondreront, parce qu'on sent que ça vient, ça monte et que ça va s'effondrer de plus en plus, une révélation particulière de ce Jésus qui est au souverain, qui est au contrôle et qui est le maître avec un M majuscule de l'histoire avec un H majuscule. Parce que plus on va avancer, plus les temps nous diront « c'est pas possible, Dieu ne règne pas autant qu'il le dit ». Et pourtant, C'est pour ça qu'il y a cette révélation avant même les lettres aux églises, avant, surtout avant qu'arrive ensuite la grande tribulation, qu'il y a ces révélations et ces moments extrêmement forts où Jésus va leur, non pas seulement leur révéler, mais il leur fait vivre cette puissance de résurrection. Ce sont, je sais, on est sur des sphères de discipulat qui sont plus, on est là, quoi. Là, on est au niveau de l'apôtre Paul quand il dit j'ai soif avec tout ce que j'ai connu dans ma vie. Paul dit j'ai soif d'être en communion avec les souffrances du Christ. Qu'est-ce que tu dis ? Afin de connaître non seulement la communion de ses souffrances, mais de vivre la puissance de sa résurrection. Et ce n'est pas seulement ressuscité au sens où le dernier jour, par la grâce de Dieu, bien sûr, comme on l'a chanté, alléluia, on sortira de notre tombe et on aura un corps glorieux à l'image de Jésus, à l'image de son corps glorifié quand il est ressuscité. Ressuscité par le même esprit, un corps semblable au sien à sa résurrection. Amen. Non, c'est de vivre une dimension intérieure qui est infiniment supérieure. C'est l'esprit de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection en eux. C'est la puissance de la résurrection dans les chrétiens de Smyrne, c'est la puissance de la résurrection qui doit être aussi en nous, bien-aimés. C'est ce que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres, cette révélation, cette puissance de résurrection. Parce que je ne sais pas ce que sera notre pays demain, je ne sais pas comment ça va se passer en France, comment ça va finir par virer ou par tourner. Je sais que beaucoup de frères et sœurs mettent la tête dans le sable, on s'imagine que... Les choses commencent, la nuit s'épaissit, ça, vraiment, vraiment. Et on ne sait pas demain ce qui pourrait nous atteindre. Et on n'est peut-être pas aussi en sécurité que ce que l'on pense. Mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'il y ait épreuve, il va falloir qu'il y ait secousse, il va falloir qu'il y ait des formes de persécution, parce que ça fait partie, je vous l'ai dit dimanche, ça fait partie, la persécution grandissante chaque année et qui atteint de plus en plus de pays. Pas forcément une persécution marteau, pas forcément la persécution qui va casser des gens, les mettre en prison, les tuer, les piller de leurs biens, etc. Non, mais une forme de pression, d'oppression, qui avait commencé au final comme avec les gens de Smyrne. Vous êtes chrétien ? Oui. Vous aimez Jésus ? Oui ou non ? Oui, je suis chrétien, j'aime Jésus. Vous ne travaillez pas dans mon entreprise. Terminé. Au revoir. Il y a toute forme d'oppression. Il y a toutes sortes de choses où, à un moment ou à un autre, la persécution peut effectivement monter. Et comme je vous l'ai dit dimanche, bien-aimé, et merci pour ce chant, la vraie question, c'est pas est-ce qu'un jour en France on sera persécuté. La vraie question, c'est est-ce que l'Église de Jésus en France, elle va être réellement remplie du Saint-Esprit ? Parce que c'est comme ça qu'on va tenir. Et c'est comme ça que cette Église de Smyrne, qui est un modèle pour nous, nous dit « Regarde ce qu'on a traversé. Regarde comme on a tenu. » Il y a des églises qui n'avaient pas, qui avaient tellement plus que nous, c'était pas difficile, ils étaient pauvres, qui avaient tellement plus de nous que nous dans tellement de domaines. Et le Seigneur leur a dit, attention, parce que si tu ne te repens pas là. Mais nous, on a tout traversé, on a tout surmonté, on a été fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort, par amour, par passion. Cherchez pas à vous demander si vous y arriverez. Jésus a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Et c'est ce que cette église m'enseigne. C'est une église fidèle, c'est une église courageuse, c'est une église modèle. C'est l'église qui symbolise, qui typifie, qui représente à elle seule toutes les églises persécutées depuis la Pentecôte jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Et le Seigneur leur apporte cette révélation extraordinaire pour les faire tenir, cette puissante conviction dans le cœur, plus forte que ce que leurs yeux voient, plus forte que les coups qu'ils peuvent subir parfois dans les geôles, dans les prisons, dans lorsqu'ils sont maltraités. Une révélation qui dépasse les circonstances visibles et le ressenti physique. Cette révélation du puissant ressuscité qui tient dans sa main la clé de la mort et du séjour des morts, et qui non seulement un jour les ressuscitera, mais qui en plus leur donne une force et un courage et les anime par cet esprit de la résurrection qui leur permet de triompher de tout et de tout transcender. Bien-aimés, il y a dans la puissance du Saint-Esprit infiniment au-delà ce que nous pensons ou imaginons. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà l'église de Smyrne, une belle église, une église intègre, fidèle, courageuse, modèle, qui dit « J'ai remporté la victoire sur le pire, l'injustice et la persécution. Et que cette Église, par la grâce de Dieu, elle puisse nous inspirer et en inspirer tellement d'autres. Amen. Alors, ce n'est pas parce qu'ils vivent dans des hauteurs spirituelles qu'ils n'ont pas besoin de nos prières. Parce que les combats, évidemment, sont réellement rudes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre petit niveau? Parce que finalement, avec tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai vu dimanche, je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois qu'on se sent bien petit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Mais la parole est claire, elle est simple, elle commence comme ça. On l'a vu, ce texte, dimanche. Déjà, pour eux, savoir qu'on ne les oublie pas, c'est énorme. C'est énorme. Savoir qu'on ne les oublie pas. C'est un impératif, on l'a vu dimanche. Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers. Comme si vous étiez vous-même prisonnier. N'oubliez pas que vous faites partie du même corps, que même s'ils sont loin, ils sont tout autant l'Église de Jésus. Vous êtes le corps comme eux, ils sont le corps comme vous. Vous pouvez aussi, bien sûr, on ne l'avait pas mis dimanche, je vous le mets ce soir, rester informé, bien sûr, par des lettres de nouvelles. Ils ont des sites qui sont extrêmement bien faits, alimentés, approvisionnés régulièrement. Bien sûr, faites-le. Quand on a vraiment à cœur, on va voir pour prier comment prier, mais quand on a vraiment à cœur d'aider, surtout bien-aimé, vous avez compris au travers de ce que le frère Christian vous a partagé dimanche, qu'il faut vraiment être extrêmement prudent, surtout à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux, où le moindre mot, le moindre nom lâché, une fois que c'est sur la toile, parce que dans les pays qui sont soi-disant en sous-développement, croyez-moi, ils ont Internet aussi bien que vous et moi. Hein. Et il y a des gens qui surveillent Internet en permanence, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des chrétiens dans leur pays, ils les cherchent, ils les traquent, etc. etc. Et l'inconvénient d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, ça fait du monde un tout petit village. Hein. Avec Internet, le monde, c'est plus rien du tout. Hein. Il n'est plus aussi grand qu'avant. Donc, jamais d'initiative personnelle, peu importe la forme de soutien. Toujours, toujours, frères et sœurs, la meilleure façon d'aider nos frères et sœurs persécutés, c'est de passer par l'intermédiaire de ces organismes, des gens qui ont la connaissance du terrain. Ils savent ce qu'il faut, ils savent de quoi ont besoin les bien-aimés là-bas, ils savent ce qui doit être fait, pas être fait, ils savent ce qu'on peut dire, ils savent ce qu'on ne peut pas dire. Donc, toujours par l'intermédiaire des organismes, ça c'est un acte de sagesse. Et puis, comme le dit la parole, eh ben, priez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Me souvenir, soutenir, prier. Évidemment, et là on peut prier pour, je vois pour moi deux axes majeurs. Prier pour les persécutés, puis on va voir aussi après c'est plus difficile. Prier pour les persécuteurs, parce que Jésus le demande aussi. Enfin, il le demande. Non, c'est un impératif. Il l'a explicitement dit en tant qu'impératif, c'est même un ordre. D'abord pour les persécutés, on peut prier pour leurs besoins. L'apôtre Paul, alors que les Philippiens ont pas persécuté, mais ont quand même des adversaires. Il le dit lui-même, et une église qui a des gros besoins matériels, l'apôtre Paul leur dit « Mon Dieu saura pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire ». On peut prier pour leurs besoins matériels, mais aussi pour des besoins spirituels, notamment la protection dans l'épreuve. Quand vous regardez dans le livre de Daniel, ce fou furieux qui était Nebuchadnezzar, qui comme Pharaon est un type de l'ennemi, un type du diable, il s'était fait ériger cette statue parce que c'était un mégalomane, un orgueilleux comme Satan. Et là, Michaël, Anania et Azaria, il les regarde, il leur dit « Comment ça se fait que vous ne voulez pas vous prosterner devant moi? Sache au roi que, quoi que tu fasses, nous ne fléchirons jamais le genou devant toi. » Ah d'accord, ben faites chauffer la fournaise 7 fois plus, juste pour eux. Et là, on pourrait se dire « Ah, le Seigneur va les délivrer. » Non, le Seigneur agit comme il veut, quand il veut. Vous connaissez ce récit? Ils vont passer par la fournaise, mais eux, ils vont vivre quelque chose de particulier. C'est que dans l'épreuve, ils vont vivre une protection particulière puisque Daniel 3 nous relate ce passage où, alors qu'ils sont jetés dans la fournaise qui a été chauffée 7 fois plus pour eux, à un moment, Nebuchadnezzar n'en croit pas ses yeux. Il dit « Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes ?» Et lui, il a aussi une grande révélation. Il dit « Bah oui, on en a jeté 3 au roi. Ah mais moi, j'en vois 4. » Et le quatrième, il a une apparence comme ça, comme ça, comme ça. Et vu la description, on sait que c'est Jésus. Alléluia. Une présence particulière, une protection, non pas toujours être délivré de l'épreuve, mais obtenir une protection particulière dans l'épreuve. Et puis derrière, Nebuchadnezzar, totalement subjugué par ce qu'il a vu, va donner des ordres afin que l'on respecte et qu'on obéisse au Dieu de Daniel, etc. Daniel chapitre 4, vous pourrez retrouver tout ça derrière. Daniel, C'est pas parce que c'était un homme pieux qu'on lui a épargné la fosse aux lions. Ben non, il y a été. Et étant dans la fosse aux lions, par contre, parce qu'il était pur et innocent devant son Dieu, il dit « J'ai été innocent ». Daniel était dans la fosse aux lions, mais parce qu'il avait confiance en son Dieu, il en est sorti. Et les lions, je sais pas comment dire, se sont retrouvés peut-être comme des matous, je sais pas. Mais il est sorti sans aucune trace, sans aucune blessure. Comme ses amis dans la fournaise, ils sont ressortis. Leurs vêtements ne sentaient même pas l'odeur du feu, leurs cheveux n'étaient même pas brûlés. Daniel est sorti sans une égratignure de la fosse aux lions. Il y a des protections, parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a des protections particulières dans l'épreuve. Et puis à d'autres moments, il y a des délivrances extraordinaires. Vous voyez dans la parole, dans le livre des Actes, je vous ai montré dimanche qu'à partir de la Pentecôte, la persécution prend une ampleur sans précédent et que ça se déchaîne de tous les côtés. Et dans le livre des Actes, acte 5, acte 12, Pierre est en prison, les apôtres sont en prison. Acte 12, Pierre est en prison et il y a une délivrance miraculeuse par un ange. Acte 16, Paul et Silas ont aussi une délivrance miraculeuse. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 aussi, l'apôtre Paul parle aussi de ces moments où il est délivré par la puissance de Dieu. Et puis, il y a des besoins spirituels. Il y a des besoins de foi, parce que quand on passe par ces moments-là, déjà nous, à notre niveau, quand on traverse des épreuves, on sait que notre foi, elle est secouée, hein, on est éprouvé. Mais à ce niveau-là, il y a vraiment un besoin que la foi soit affermie et fortifiée. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous passer par le crible. Mais j'ai prié, tu sais. Mais j'ai pas prié pour que ça t'arrive pas, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Luc chapitre 22, avant que Pierre ne renie Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 35. Il est question de tous ceux qui n'ont pas obtenu les promesses, mais en vue d'une meilleure rémunération, ont accepté dans le dénuement d'errer, ça, là, scié, torturé, maltraité, rejeté, etc. Et ils sont, ces bien-aimés, dans le chapitre 11 des Hébreux, ils sont dans le chapitre des héros de la foi. Ce sont des champions de Dieu, des héros de Dieu. La fidélité, c'est ce qu'on a vu ici, Apocalypse 2.10, à l'église de Smyrne. Dieu donne la capacité, il donne les moyens de ce qu'il demande, il donne ce qu'il ordonne. Il lui a dit, sois fidèle, il donne les moyens de rester fidèle, bien sûr. Mais il lui a dit, sois fidèle, Seigneur, que les bien-aimés restent fidèles, que la foi ne défaille pas, que tu les protèges, que tu les délivres, tu les renouvelles dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait dit, acte 1er, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu, mon Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Littéralement, témoin, c'est pas témoin où tu vas parler de Jésus au boulot. Témoin, dans le grec, c'est martus, qui a donné le mot martyr. Jésus dit, la puissance de l'Esprit en vous, mes disciples, sera-t-elle que vous serez capable d'aller au martyr comme moi ? Par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'il est capable de produire. Et alors qu'il y a eu cette effusion ensuite en acte 2, Pierre et Jean, après avoir guéri l'apôtre, le boiteux à la porte du temple nommé Labelle, ils sont mis en garde à vue, on les arrête, on les menace. Quand ils ressortent, ils enseignent encore, on les arrête, on les bat de verge, on les met en prison, on les relâche. Et quand ils arrivent, tout de suite après, ça ne fait pas longtemps, hein. Mais puisque la persécution s'intensifie, la puissance de l'Esprit est relâchée encore plus fort. Et alors là, alors qu'ils arrivent, ils n'ont pas dit, c'est ça qui est fou, mais faites bien attention quand vous lisez la Bible, c'est passionnant. Ils sortent de prison, on les a battus. Ils pourraient dire, bon ben, on va faire gaffe, on va se planquer, je ne sais pas. J'aurais dit un truc, on va faire un plan, on va se débrouiller quoi. Et eux, ils arrivent dans le lieu de prière. Et ils disent, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et qu'il se fasse par le nom de ton saint serviteur Jésus des prodiges, des miracles, des guérisons, des machins. D'accord. Et ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit, une nouvelle effusion très peu de temps après, parce que Dieu leur donne à la hauteur de ce qu'ils doivent traverser. Une possibilité d'action et de témoignage dans l'adversité. Ce n'est pas parce que l'Église est souterraine qu'elle n'a pas de possibilité d'action. C'est pas parce que l'Église est souterraine que être pris dans la rue avec une Bible ou le fait de parler de Jésus peut vous faire mettre en prison, voire pire dans certains pays. C'est pas pour autant que les frères et sœurs ne se taisent pas. Ils sont prudents, ils sont structurés, ils sont sages, ils sont organisés. Mais il y a toujours des actions et du témoignage dans l'adversité. Je vous ai mis deux références, notamment celle de Colossiens 4. Paul est dans les chaînes, il est dans les liens, il dit « Souvenez-vous de mes liens » et surtout « Priez pour moi afin qu'une porte me soit ouverte, afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile dans mes tribulations, dans ma persécution, comme je dois en parler. » Voilà ce qu'on peut prier aussi. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que L'action et le témoignage, même dans ces pays persécutés, non seulement ne s'arrêtent pas, mais ce qui est fou, frères et sœurs, mais ça c'est Dieu, hein, c'est que c'est là-bas que l'Église progresse le plus. C'est là-bas qu'il y a le plus de conversion, de conviction de péché, de nouvelle naissance, de guérison, de miracles, de prodiges. C'est là-bas, c'est pas ici. Action et témoignage dans l'adversité. Et puis, quelque chose qui est beaucoup plus dur pour nous, c'est plus facile d'avoir compassion du persécuté que du persécuteur. Pourtant, Jésus dit bien, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Matthieu chapitre 5, Luc chapitre 6. Deux axes majeurs, le salut de tout homme et de toute autorité. En dehors de la persécution, c'est un principe permanent. L'apôtre Paul dit, je demande à ce qu'on fasse à Dieu des prières pour, etc. etc. Le salut, parce que Dieu veut que tous les hommes, les musulmans, les arabes, les bouddhistes, les hindouistes, les machins, tous, sans exception, peu importe leur couleur de peau, peu importe ce qu'ils ont fait, pas fait, peu importe mes préjugés, mes ressentis, priez pour tous afin que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Paul à Timothée. Et puis, priez aussi pour que Dieu, qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut, Dieu renverse et établit les rois. Que Dieu peut-être un jour comme Nebuchadnezzar, peut-être un jour comme Pharaon, peu importe, mais Dieu renverse, Dieu établit les rois. Quand vous lisez le prophète Jérémie, alors que la déportation était annoncée plusieurs années, même un siècle avant, et quand vous lisez les différents récits des annonces prophétiques de la déportation, à un moment dans le prophète Jérémie, qui était contemporain de Daniel, Dieu dit à Jérémie, « Je fais de Nebuchadnezzar mon serviteur. » Et quand son temps sera venu, quand les 70 ans seront écoulés sur mon peuple, je le renverserai et un autre prendra sa place. Je fais de Nebuchadnezzar mon serviteur jusqu'à ce que son temps arrive. Quelques exemples bibliques, ben justement Nebuchadnezzar humilié par Dieu, Daniel chapitre 4, j'avance, Pharaon anéanti par Dieu, Exode 14, Pharaon et son armée, dit Dieu, serviront à faire éclater ma gloire. Et là, il a été détruit. Nebuchadnezzar a été humilié. Plus tard, il a aussi été renversé parce que son temps est arrivé. Mais Dieu s'en est servi. Aman, quand vous lisez le livre d'Esther, vous vous apercevez que ce n'est pas une petite persécution en passant. L'histoire du livre d'Esther, c'est un génocide. C'est une volonté de génocide contre le peuple juif parce que Jésus vient de la lignée du peuple de David. C'est un génocide qui est pensé, organisé, voulu, avec derrière des autorités spirituelles démoniaques dont l'un des principaux protagonistes s'appelle Aman. Et lui qui avait prévu que, et Dieu dans son humour, permettez-moi, parce que je suis convaincu que par moments Dieu est juste mais il a de l'humour aussi, a permis que Aman soit pendu exactement sur la potence qu'il avait dressée pour Mardoché. Et Dieu agit. Et puis, je ne vais pas seulement demander à Dieu du mal pour les persécuteurs, je vais demander aussi à Dieu du bien pour les persécuteurs. Parce que si Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre, qui avait en sa main des lettres, des chefs religieux, des autorités, des autorisations pour monter à Damas, pour exterminer cette nouvelle secte de chrétiens. Si Saul de Tarse a reçu, alors là on pourrait raconter tellement de témoignages de gens dans les pays persécutés qui ont des révélations de Jésus extraordinaires, la conversion de Saul de Tarse, il est vraiment désarçonné et le Seigneur le terrasse et le stoppe en un instant, en une fraction de seconde. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons, Saul. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Je suis Jésus que tu persécutes. Et celui qui était le plus grand persécuteur de l'Église est devenu le plus grand, je mets des guillemets, hein, mais d'une certaine façon, on lui doit quand même la moitié du Nouveau Testament maintenant. Hein, c'est pas rien. Est quand même devenu, permettez-moi l'expression, le plus grand des apôtres. Si le Seigneur a su se révéler à Saul de Tarse, il peut se révéler et convaincre n'importe qui.